Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient comme tous les jours. Vous nous appelez et vous commentez l'actualité dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur l'élection présidentielle au Burundi avec cette question. Pierre Nkurunziza va-t-il briguer un troisième mandat en juin prochain ou finira-t-il par céder aux pressions? En tout cas, la marge de manœuvre du président sortant est de plus en plus étroite. L'opposition, la société civile, l'Église catholique exigent le respect de la Constitution. La contestation s'organise aussi au sein même du parti présidentiel. Et la communauté internationale se mobilise également. Vendredi dernier, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a appelé en personne Pierre Nkurunziza pour lui demander de réfléchir aux conséquences de son éventuelle candidature. Vos réactions, évidemment, nous intéressent. Quelques 300 messages postés déjà sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais si vous souhaitez vous exprimer de vive voix, un seul numéro, 33 9 693 693 70. 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI. Vous nous posez toutes vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que vous entendez sur notre antenne, dans les différents journaux. Plusieurs questions sur le Yémen. Nicolas Falaise, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Le Yémen, où depuis maintenant 6 jours, une coalition de pays arabes mène des frappes aériennes, contre les rebelles Houthis. Pacom, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Abidjan, on vous écoute.
Effectivement, d'accord. Voilà, l'actualité politique, c'est la crise au Yémen. Voilà, et à cette situation-là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé, sinon quelle était la conjoncture qui a prévalu et qui a vu la naissance de la rébellion Houthis cette nuit aussi, leur revendication.
Oui.
Je vais poser ma deuxième question.
Eh ben, allez-y, ou sinon, patientez, restez en ligne. On va déjà tenter de vous expliquer le plus simplement possible avec Nicolas Falaise le chaos yéménite. Et pour bien comprendre la situation, Nicolas, il faut parler de la situation intérieure du pays, mais aussi de la situation régionale.
Oui, sur le plan intérieur, le Yémen, c'est un pays traversé par plusieurs crises simultanées. C'est le principal pays d'implantation d'ACPA, Al-Qaïda dans la péninsule arabique, un groupe djihadiste radical sunnite combattu depuis plusieurs années par une campagne d'attaque de drones américains opérant au Yémen. Le Yémen a aussi été le théâtre d'un soulèvement en 2011, sur fond de printemps arabe dans la région. Cette révolution a entraîné le départ du président de l'époque et la nomination d'un pouvoir de transition avec à sa tête le président Abdrabo Mansour Hadi. C'est cette transition politique que l'on voit échouer depuis quelques mois sur fond de montée en puissance de ce fameux mouvement rebelle, les Houthis. Qui sont-ils ? L'expression politique de la minorité zaïdite du Yémen, le zaïdisme étant une branche de l'islam chiite. Dans leur conquête territoriale ces derniers mois, les Houthis ont fait alliance avec d'autres acteurs, notamment des proches de l'ancien président Ali Abdallah Saleh. Il faut ajouter, pour compléter le tableau interne du pays, que le Yémen est aussi agité par un mouvement indépendantiste au sud, sur une ligne de partage qui existait auparavant, puisque le Yémen, rappelons-le, a été divisé en deux États indépendants jusqu'à sa réunification de 1990.
Les Houthis qui ont pris les armes dans un premier temps, car ils se disaient marginalisés, ils exigeaient une plus grande part du pouvoir, ils disaient vouloir lutter contre la corruption incarnée par l'ancien président.
Oui, et à cela s'ajoutent effectivement les éléments régionaux dont on parlait. Le contexte régional, c'est celui de la tension entre l'Iran chiite et ses alliés d'une part, et d'autre part les sunnites avec à leur tête l'Arabie Saoudite. Un certain nombre de pays, notamment dans le Golfe, s'inquiètent de la montée en puissance de l'Iran dans la région. Ils redoutent de voir l'Iran pousser ses pions en s'appuyant sur des alliés locaux, notamment chiites et notamment les Houthis du Yémen. Alors voilà le contexte dans lequel on a appris il y a moins d'une semaine le début de cette opération militaire étrangère au Yémen.
Pacôme, vous avez une autre question?
Oui, effectivement. La deuxième question, et ma dernière, c'est quels sont les moyens et les objectifs de cette intervention de l'Arabie Saoudite et ses alliés?
Alors, il y a 9 pays arabes qui composent pour l'instant cette coalition qui intervient donc au Yémen. Une coalition effectivement menée par l'Arabie Saoudite avec de gros moyens quand même mobilisés.
Oui, tout à fait. Des moyens aériens pour l'essentiel. On voit les bombardements se poursuivent. Encore cette nuit, ils ont été violents. Ils ont frappé des positions tenues par les Houthis dans leur fief de Saada, c'est dans le nord, mais aussi à Sanaa, la capitale. Intervention aérienne pour l'instant, selon l'Arabie Saoudite, une intervention au sol n'est pas exclue, mais pour le moment l'objectif reste de poursuivre la campagne aérienne.
Plusieurs pays se sont dit volontaires, se sont portés volontaires en cas d'intervention de troupes au sol, c'est le cas de l'Égypte, de la Jordanie et du Soudan.
Oui, puis il y a effectivement des soutiens militaires et des soutiens politiques à cette intervention. On peut parler du soutien du Pakistan, de la Mauritanie, du Maroc, soutien des États-Unis également, et puis aussi l'approbation de plusieurs pays, dont la France, qui soutiennent toujours le président Hadi. Voilà pour l'aspect massif de cette coalition. Peut-on envisager qu'elle se traduise ensuite par une intervention au sol? C'est assez peu probable vu le contexte qu'on a expliqué auparavant. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a annoncé que l'offensive lancée au Yémen se poursuivrait jusqu'à la réalisation de tous ses objectifs, à savoir le rétablissement de la paix et de la sécurité au Yémen. On peut vraiment s'interroger sur le caractère réaliste de cet objectif.
Pacom, on vous souhaite une bonne journée à Abidjan. Merci de votre fidélité. Abdelkerim est à Nouakchott. Je me fais son porte-parole. Le réseau téléphone ne passe pas bien avec la capitale mauritanienne. Il nous dit, pourquoi l'Iran s'oppose à cette coalition arabe?
Alors, longtemps, la situation au Yémen a semblé échapper à une lecture schématique régionale sunnite contre chiite. Mais on voit bien depuis quelques mois que les acteurs locaux et régionaux se réfèrent de plus en plus à cette logique sectaire. Donc on peut lire la position de l'Iran à la lumière de la rivalité chiite sunnite dans la région, même si, il faut le rappeler, les Houthis n'appartiennent pas à la même tendance du chiisme que les Iraniens. Alors la crainte, on l'a dit, d'un certain nombre de pays arabes sunnites et aussi d'un certain nombre de pays occidentaux, c'est de voir l'Iran émerger aujourd'hui comme la principale puissance au Moyen-Orient en s'appuyant sur ses alliés, le régime de Bachar el-Assad en Syrie, le Hezbollah au Liban, la majorité chiite en Irak, les Houthis au Yémen et aussi dans une certaine mesure le Hamas à Gaza. L'Iran effectivement s'est opposé très fermement à l'intervention de la coalition anti-Houthi au Yémen. L'Iran qui pour l'instant reste sur une ligne de non-ingérence dans cette crise, mais qui est accusé de soutenir la rébellion Houthi.
Cette rébellion est clairement un bras armé de l'Iran, c'est ce que disent certains experts et c'est ce que pense savoir l'Arabie Saoudite.
Oui, la Maison Blanche s'est même inquiétée ces derniers jours des activités iraniennes au Yémen. Donc on risque d'être dans une logique d'accélération, d'intensification de cet affrontement régional sur le terrain yéménite.
Merci beaucoup Nicolas Falaise d'être venu nous éclairer davantage sur le chaos yéménite, situation particulièrement complexe. Grâce à vos questions d'auditeurs, on en sait davantage. Vos questions 33 9 693 693 70. Gaël est avec nous, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes au Gabon, vous nous appelez de Libreville et vous avez des questions sur l'Afghanistan.
Oui, Barack Obama avait annoncé qu'il retirerait la presque totalité de ses troupes en Afghanistan avant la fin de cette année. Or, il a annoncé récemment qu'il maintenait 10 000 hommes sur place. Je voudrais savoir le pourquoi de cette décision et quel sera le rôle de ces 10 000 hommes sur place en Afghanistan.
Alors c'est vrai que contrairement à ce qui était prévu, les États-Unis vont maintenir 9800 soldats en Afghanistan jusqu'à la fin de l'année, alors que le contingent américain devait être réduit à 5500 hommes. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Juan, bonjour.
Journaliste au service international d'RFI. Pourquoi Barack Obama a-t-il décidé de ralentir le retrait des troupes américaines d'Afghanistan?
Alors tout d'abord, il faut rappeler Juan que le président américain répond ainsi à une demande explicite du nouveau chef d'État afghan Ashraf Ghani. Vous vous souvenez, il était en visite officielle la semaine dernière, justement, à Washington. Pour Barack Obama, il s'agit d'apporter un soutien appuyé à son nouvel homologue afghan. Après les années de relations bilatérales, on peut dire exécrables, qui ont marqué la fin de la présidence d'Hamid Karzai. Mais, bien évidemment, la décision de prolonger la présence militaire américaine en Afghanistan est avant tout, évidemment, on peut vraiment le dire, tout motivé par la situation sécuritaire dans le pays.
D'autant que l'année dernière a été probablement l'une des les années les plus sanglantes hein, depuis le début de l'intervention occidentale en 2001.
Oui, tout à fait. L'an dernier, les attaques des talibans ont fait plus de 10 500 victimes selon la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan. La plupart sont des civils. Une large partie des zones rurales sont aujourd'hui sous la coupe des talibans en Afghanistan et la traditionnelle saison de combat débute justement maintenant au printemps. Alors, à Washington, comme ailleurs dans le monde d'ailleurs, on se pose la question de savoir si l'armée et la police afghane sont capables de faire front. Barack Obama a donc justifié la prolongation de la présence militaire américaine par la nécessité de continuer à entraîner l'armée afghane et à la conseiller durant l'offensive de printemps qui s'annonce. Il s'agit aussi d'inciter les talibans à revenir à la table des négociations en les privant justement de victoires sur le terrain. Car, comme l'ont souligné de concert les présidents afghans et américains la semaine dernière, une solution durable ne peut qu'être d'ordre politique. Ça c'est donc, Juan, si vous voulez, pour le volet taliban, mais il y a encore une autre menace qui pèse bien sûr sur le pays.
Et cette menace, c'est évidemment celle de l'organisation de l'État islamique.
Oui, exactement. Les Américains craignent en Afghanistan un scénario à l'irakienne. L'Irak où, vous vous rappelez, faute d'accord, le retrait précipité et prématuré des forces américaines a entraîné une sorte de grand vide dans lequel se sont engouffrés les islamistes. Et ce n'est donc pas étonnant que Barack Obama, en annonçant le ralentissement du retrait américain de l'Afghanistan, ait déclaré « Nous ne devons pas avoir à retourner à Kaboul ». C'est donc une allusion directe à ce qui s'est passé en Irak.
Gaël nous demandait quel sera le rôle de ces hommes qui vont rester sur place. 10 000 soldats américains jusqu'à la fin de l'année, quelle sera leur mission?
Alors, officiellement, l'intervention militaire occidentale et donc américaine en Afghanistan s'est achevée à la fin de l'année dernière, comme vous le savez. Alors, les quelques 10 000 militaires américains toujours présents ont pour mission de former et d'encadrer les forces de sécurité afghanes. Donc, les Américains n'ont officiellement, en tout cas, plus de rôle de combat et la prolongation de leur présence sur place ne devrait en principe rien changer à la nature de cette mission. En revanche, et ça c'est important, la décision de Barack Obama implique aussi le maintien de deux bases militaires américaines. L'une se trouve à Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, et l'autre à Jalalabad, dans l'est du pays. Et c'est justement, Juan, depuis ces deux bases militaires que la CIA et les forces spéciales américaines mènent des opérations antiterroristes secrètes, dont des frappes par drone, des deux côtés d'ailleurs de la frontière afghano-pakistanaise. Grâce à ces deux bases, l'administration américaine se donne donc des moyens pour surveiller les mouvements terroristes dans le pays et elle peut aussi intervenir suffisamment tôt si les islamistes tentent de s'implanter en nombre.
Ouais. Gaël, on a répondu à vos questions?
Oui, parfaitement, merci bien.
Et bonne journée à vous. Avant de nous quitter, Stéphanie, est-ce qu'on a du nouveau concernant le calendrier de retrait des troupes américaines, puisque Barack Obama semble vouloir le ralentir? Est-ce qu'il s'est projeté malgré tout dans l'avenir?
Non, pas encore, Juan. On sait que les 9800 soldats américains actuellement présents dans le pays y resteront pour toute la durée de l'année 2015. Barack Obama a ensuite promis de garder le cap fixé, à savoir d'ici la fin de son mandat en janvier 2017. Donc, seuls 1000 militaires américains seront encore en Afghanistan pour protéger l'ambassade des États-Unis et ses personnels. Sauf qu'à Washington, évidemment, de nombreux spécialistes commencent déjà à spéculer sur une possible prolongation de la prolongation, si vous voulez, c'est-à-dire une présence militaire américaine en Afghanistan au-delà du mandat de Barack Obama.
En tout cas, sans surprise, les talibans, eux, ont dénoncé le maintien des troupes américaines. L'annonce d'Obama signifie que les Américains vont continuer leur invasion de l'Afghanistan, a déclaré leur porte-parole. Nous continuerons le combat jusqu'à qu'ils soient tous partis, a-t-il ajouté. Merci Stéphanie Schuller d'être venue répondre à Gaël, qui
avec
nous appelait
plaisir.
De Libreville. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat du jour et cette question. Pierre Kourounziza, le président sortant au Burundi, va-t-il briguer un troisième mandat? En tout cas, l'opposition, la société civile, l'Église catholique est vent debout contre cette perspective. La communauté internationale d'ailleurs ne cache pas ses inquiétudes. Le spectre d'une nouvelle guerre civile est évidemment dans tous les esprits. On en parlera ensemble. 33 9 693 693 70. Bonjour Ousmane.
Bonjour.
Vous êtes en région parisienne?
Je suis en région parisienne. Je suis mauritanien. Je salue d'abord les auditeurs de RFI et ceux qui nous écoutent à Zouarat et Ouagadougou au nord de la Mauritanie.
Très bien. Ouais. Et vous avez des questions, vous, sur la grève des travailleurs de la Société Nationale Industrielle et Minière en Mauritanie, une grève qui dure maintenant depuis 2 mois.
Oui, Juan, j'ai 3 questions. Ma première question, pourquoi cette grève dure 2 mois? Et la deuxième, pourquoi la direction générale de la SNIM ne cherche pas à négocier avec les employés de la SNIM?
Oui, la SNIM, c'est la, rappelons-le, c'est la plus importante entreprise de Mauritanie. Elle emploie quelques 6000 travailleurs et cette entreprise contribue à elle seule à près de 30% du budget de l'État. Il faut dire que le fer représente l'essentiel des exportations du pays. Bonjour Gaëlle Lalex.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service économique des RFI. D'abord, on va peut-être rappeler les causes de cette grève qui s'éternise effectivement.
Oui, elle a démarré le 28 janvier. La CGTM, la Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie, le syndicat majoritaire au sein de la SNIM, lance une grève illimitée. Les salariés réclament l'application d'un protocole signé en mai 2014. Il prévoyait, entre autres, une augmentation générale des salaires et le paiement d'une prime de production à partir d'octobre. Mais entre-temps, les cours du fer ont chuté et la SNIM refuse maintenant d'accorder augmentation et prime. Le minerai de fer a perdu 60% de sa valeur entre mars 2014 et mars 2015. Il se vend aujourd'hui à $57 la tonne contre 130 il y a un non. Dans ces conditions, la SNIM estime qu'augmenter les salaires serait suicidaire pour l'entreprise, car cela revient à alourdir ses coûts de production et donc à diminuer sa compétitivité. Ceci dit, et c'est important de le dire, la baisse des cours du fer a démarré dès le début de l'année dernière et elle était donc déjà connue lors de la signature du protocole de mai 2014.
Il y a donc maintenant un an. Pourquoi la situation est dans l'impasse aujourd'hui ?
Bien, c'est un dialogue de sourds qui se tient depuis près de 3 mois entre les grévistes et la direction de la SNIM. La SNIM se dit prête à entamer des négociations uniquement si les ouvriers reprennent le travail. Alors évidemment, pour les grévistes, pas question de retourner à la mine sans garantie. Et le ton s'est sensiblement durci la semaine dernière. D'abord, la SNIM a menacé de licencier les grévistes. Ensuite, lors d'une conférence de presse jeudi, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a exhorté les travailleurs de mettre un terme au mouvement. Seuls les travailleurs et les familles vont pâtir de cette situation, a-t-il lancé comme une menace. Même pas peur, du côté des syndicats, ils sont aujourd'hui plusieurs milliers de grévistes. La grève partie du site de Zouérat s'est étendue à celui de Noidibou, le port d'où exporter le fer. D'après la CGTM, les grévistes peuvent encore tenir. Ils ont créé des caisses de solidarité et ont ouvert des comptes bancaires sur lesquels ils reçoivent des souscriptions volontaires. En outre, ils sont soutenus par nombre de Mauritaniens. Une marche est d'ailleurs organisée aujourd'hui par le Forum National pour la Démocratie et l'Unité. Il s'agit d'un collectif de 17 partis politiques, de dizaines d'organisations de la société civile et de centrale syndicale.
Oui, la principale coalition de l'opposition qui accuse le gouvernement d'insouciance face à cette crise qui frappe en ce moment cette entreprise. Ousmane, vous aviez une autre question ?
Oui, Juan, quelles seront les conséquences de cette grève sur la production minière et sur l'économie mauritanienne ?
Alors, difficile de le dire comme ça, on n'a pas de boule de cristal. En tout cas, quand on entend le président de la République, le président mauritanien, tout semble aller pour le mieux.
Ah, c'est la sérénité. Hein. D'après la SNIM et d'après le président Aziz, cette grève n'affecte pas la production de la mine. Sur notre antenne, d'ailleurs, le porte-parole de la SNIM a assuré que les commandes étaient respectées. La société aurait même produit 15% de plus que les objectifs fixés pour février. Selon la direction, moins de la moitié des employés sont en grève et les effectifs ont été redéployés pour permettre à toute la chaîne de production de fonctionner. Évidemment, les grévistes n'ont pas cette grille de lecture. D'après la CGTM, les sites de la SNIM tournent au ralenti et n'assurent que 10 à 15% de leur capacité de production. En réalité, la SNIM a les épaules solides. Évidemment, l'État en détient 78% et les années entre 2009 et 2011 ont été assez fastueuses. Le prix du fer passant de 72 à $195 la tonne, ce qui a permis à l'entreprise d'enregistrer des bénéfices conséquents. Ceci dit, sur le long terme, le mouvement peut coûter très cher car il faut assurer la maintenance des installations qui comprennent notamment une voie ferrée, des infrastructures portuaires. Puis il faut rassurer les acheteurs qui risquent d'aller voir ailleurs. La SNIM vend 80% de son fer à la Chine et le reste à des pays européens. Et comme vous l'aviez dit, elle contribue à 30% du budget mauritanien.
Et c'est donc la principale source de devises du pays. Merci beaucoup Gaëlle Lalex. Ousmane, bonne journée en région parisienne. Si vous souhaitez réagir à cette grève des travailleurs de la SNIM qui dure depuis maintenant 2 mois, eh bien surtout n'hésitez pas. Je vous rappelle que le vendredi, vous pouvez commenter l'actualité de votre choix. Tous les sujets nous intéressent et vous pouvez d'ailleurs dès maintenant commencer à vous inscrire pour la libre antenne 33 9 693 693 70. À suivre le journal et on revient dans 10 minutes pour parler de la présidentielle au Burundi et d'un éventuel troisième mandat pour le président sortant Pierre Nkurunziza. À tout de suite.